VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Nigeria, Aboubakar Shekau, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, est apparu dans une vidéo dans laquelle il dément avoir été blessé lors d'un bombardement aérien dans le nord-est du Nigeria. Des sources sécuritaires nigériennes avaient affirmé mercredi que Shekau avait été blessé le 28 avril lorsque plusieurs missiles tirés par des chasseurs bombardiers nigériens avaient atteint des combattants de Boko Haram réunis à Bala, un village situé en lisière de la forêt de Sambisa, l'un des bastions des islamistes. Mais dans la vidéo de 14 minutes mise en ligne jeudi sur Internet, le chef de Boko Haram affirme ne pas avoir eu connaissance de cet événement. Il insiste sur le fait que ni lui ni aucun de ses lieutenants n'ont été blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans les termes les plus forts l'attaque à la roquette de mercredi contre le camp de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, qui a tué un casque bleu libérien et fait 9 blessés à Tombouctou. Il demande au gouvernement malien d'ouvrir rapidement une enquête pour traduire en justice les responsables de cette attaque. Le Conseil de sécurité a rappelé que selon la loi internationale, cibler un casque bleu peut constituer un crime de guerre. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Alliance djihadiste formée récemment, notamment par les combattants du malien Yala Gali et de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. En Côte d'Ivoire, 40 tonnes de faux médicaments saisis par les autorités cette semaine dans un quartier d'Abidjan. Le docteur Parfait Kouassi, ancien président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, donne des précisions sur l'ampleur de ce fléau dans le pays.
Ces faux médicaments sont des médicaments de contrebande qui font l'objet donc d'importations frauduleuses en provenance de certains pays asiatiques comme la Chine, l'Inde, mais aussi de certains pays frontaliers comme le Nigeria ou le Ghana. Et lui aussi, on l'a découvert récemment, il existe en Côte d'Ivoire même quelques endroits, des usines clandestines de fabrication de médicaments, de faux médicaments. Donc voici les différentes origines qui sont connues à l'heure actuelle. C'est d'abord la profession pharmaceutique qui est la première perdante au plan économique, puisque les estimations, il y a quelques années, quand j'étais encore président des pharmaciens, les études que nous avons menées, environ 25 à 30% de parts de marché étaient absorbées par ce secteur informel et ce marché parallèle. Ce qui représente entre 40 et 50 milliards de francs CFA qui sont distraits par ce secteur. Sur ces 50 milliards, il faut compter à peu près 5 milliards qui devraient normalement revenir à l'État au titre des taxes et des impôts divers.
Le docteur Parfait Kouassi, ancien président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU, exhorte Kinshasa à coopérer dans l'enquête sur le meurtre de deux experts onusiens au Kasaï et les fosses communes découvertes dans cette région du centre du pays. Le Conseil a également demandé hier au gouvernement du président Joseph Kabila et à l'opposition congolaise d'intensifier leurs efforts pour arriver à un accord permettant la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année. Toujours concernant la RDC, au lac Albert, une tentative d'exploitation pétrolière a été stoppée suite à des dénonciations de corruption et de violence de la part d'une société britannique. La tentative a soulevé un tollé des populations riveraines et des organisations de protection de la nature, car elle risquait de faire perdre au parc de Virunga son statut de patrimoine mondial de l'humanité. Eddy Sango a joué l'auteur de ces révélations de corruption et violence, documentées grâce à une caméra cachée. Rodrigue Mungaruka, qui a reçu à Washington le prix Goldman.
Mais ils ont dit non, nous pouvons te faire quelque chose, c'est-à-dire la corruption. J'ai dit non, on n'en a pas besoin, ils sont rentrés. Ils ont maintenant impliqué presque tout le monde, les services de sécurité, la police, l'armée, même les autorités, certaines autorités au sein de l'ICCN. On a compris qu'on était alors très fragilisés parce que c'était tout le monde qui était derrière l'activité pétrolière au sein du parc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à documenter par des caméras cachées tout ce qui était en train d'être fait en rapport avec la violation de la loi, en rapport avec la corruption. Et malheureusement, beaucoup de gars sont morts au niveau du parc national de Virunga, 160. Ces populations-là qui entourent le parc, c'était farouchement opposé à l'arrivée de Soko. Personnellement, le fait que je m'étais opposé à la construction d'une antenne au niveau de Nyakakoma, cela m'a valu une arrestation brutale. On m'a arrêté par des militaires, c'était à 23h, puis on m'a conduit à la Rwindi, où je suis torturé devant mes hommes. Après, on m'a amené à Goma. Ils me promettaient que je vais mourir parce que c'est l'OE. J'ai agi contrairement à ma mission, c'est-à-dire il fallait que je laisse Soko entrer dans le parc. Et donc, j'ai trahi les autorités qui ont accordé finalement l'autorisation à Soko de pouvoir faire le pétrole dans le parc national de Virunga. Vous apprendrez qu'au courant de la démarche, il y a le directeur, donc mon chef direct, avait été également obligé d'une embuscade à 10 km de son bureau à Rumangabo. Donc, il a eu 3 balles à l'estomac.
Mais ne pensez-vous pas que l'exploitation pétrolière dans les lacs aurait permis au Congo d'avoir beaucoup plus des ressources financières et même de développer les secteurs de cette région-là?
Le pétrole, en soi, c'est une ressource épuisable, tandis que la faune et la flore et les activités de pêche qui se font sur le lac Édouard sont des activités sur lesquelles on peut compter de génération en génération. Mais on ne peut pas compter améliorer la vie sur base du pétrole de génération en génération.
Dans tous les parcs, il y a des miliciens, il y a des forces qu'on appelle les forces négatives au Congo, il y a les FDLR, il y a les LRA. Est-ce que vous avez les moyens de faire face à tous ces groupes armés?
Le parc national de la République démocratique du Congo ont besoin de matériel et de ressources. Quand nous avons commencé en 2010, il y avait 500 hippopotames au niveau du lac Édouard. Mais quand on a fait le comptage avec les efforts que nous avons déployés pour essayer de limiter les actions des groupes armés, pour s'opposer au braconnage des groupes armés qui ciblaient les grands mammifères, dont l'hippopotame et l'éléphant. Donc on a vraiment empêché le braconnage au point que de 2010 à 2013, il y a eu augmentation de la faune. On est parti de 500 individus au niveau de l'hippopotame pour avoir 1700. Parce qu'on était également préoccupé par la question pétrolière. Mais il y a eu forte augmentation des effectifs de grands mammifères au niveau du secteur centre.
Vous êtes maintenant à Upemba. Est-ce que la situation est la même là-bas?
Rien que depuis l'année 2015 jusqu'à l'ère Tulé, nous avons aussi chassé 1400 trésors miniers artisanaux au site du parc national de l'Upemba.
Rodrigue Mungaruka, actuellement responsable du parc Upemba RDC et récipiendaire du prix Goldman.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Algérie, le parti au pouvoir depuis l'indépendance et son principal allié ont remporté comme prévu la majorité absolue aux élections législatives de jeudi, selon les résultats annoncés ce vendredi par le ministre de l'Intérieur. Le FLN, le Front de Libération Nationale du président Abdelaziz Bouteflika, conserve sa première place à l'Assemblée nationale populaire avec 164 sièges sur 462. Suivi par son allié du Rassemblement national démocratique, le RND, avec 97 sièges. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a annoncé qu'il irait en Arabie Saoudite, en Israël et au Vatican, où il sera reçu par le pape François le 24 mai. Les détails avec Anastasie Toudjèche.
Ces trois étapes s'ajoutent à la présence annoncée de Donald Trump à ses premiers sommets de l'OTAN à Bruxelles le 25 mai et celui du G7 en Sicile les 26 et 27 mai. En Israël, le président américain devrait, selon la Maison-Blanche, discuter des moyens de faire avancer une paix véritable et durable entre Israéliens et Palestiniens avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais également avec Mahmoud Abbas, probablement en Cisjordanie. Donald Trump a assuré mercredi à M. Abbas à la Maison-Blanche vouloir créer la paix entre Israël et les Palestiniens. En Arabie Saoudite, il aura fin mai une réunion vraiment historique avec des dirigeants de tout le monde musulman. L'Amérique alliée historique de la pétromonarchie sunnite a déjà amorcé, sous la présidence Trump, le réchauffement de liens refroidis sous Barack Obama.
Guerre en Syrie, les avions de la coalition internationale menée par les États-Unis ne pourront pas opérer au sein des zones de désescalade dans le pays. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi un haut diplomate russe. La Russie et l'Iran, alliés du président syrien Bachar al-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles, ont adopté jeudi à Astana, au Kazakhstan, un plan russe pour la Syrie, visant à créer des zones sécurisées pour instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Les territoires concernés seront dotés de zones d'exclusion aérienne à condition qu'il n'y ait aucune activité militaire dans ces secteurs, selon le président russe Vladimir Poutine. Et pour terminer, présidentiel en France, près de 47 millions de Français sont appelés à voter le 7 mai prochain pour choisir leur futur président avec deux candidats en lice. le centriste pro-européen Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.